Seigneur Jésus, nous te remettons ce temps. Les disciples étaient en recherche de vraie transformation. Pierre était en recherche de vraie transformation. Et tu as envoyé ta transformation. Elle s'appelle Esprit Saint. Cet esprit qui a transformé tes disciples et qui les a rendus capables d'annoncer ton amour, ta vérité, avec courage, humilité, clarté, vérité, amour et sainteté. Ce même esprit est toujours là, Seigneur. Nous voulons étudier ensemble comment cet esprit a transformé une personne, Pierre, aujourd'hui, et comment il peut nous transformer aujourd'hui, transformer notre communauté, chacun de nous. Nous te remettons ce temps, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous venions aujourd'hui, bonjour Rémi, bonjour Eva, désolé, j'ai pas encore pu vous dire bonjour. On était surpris avec Sandra, on se disait, c'est quand même étrange. À chaque fête chrétienne, nous avons des fêtes tamoules qui font des célébrations dans la rue. Pourquoi est-ce qu'ils font ces fêtes au moment où il y a des chrétiens? Vous avez remarqué ça?
Oui. En fait, il y a des correspondances
C'est ce que eux disent.
Voilà,
moi, ce que je.
Oui. Chrétien, par exemple, quand il y a l'Assomption, bah, eux, ils fêtent une déesse qui, pour eux, est
voilà. Ils ont essayé d'incarner, d'intégrer la foi chrétienne dans leur foi. Allez en Inde, jetez un coup d'œil. Vous allez voir, à Pentecôte et à Pâques, il n'y aura pas.
Oui. Et je peux témoigner même, rapidement, d'un gourou que j'ai connu, un grand gourou, qui rassemblait à chaque fois en Inde au moins 300 000 personnes et qui parlait de Jésus tout le temps. Mmh.
Alors, le paradoxe de la religion hindoue, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle syncrétistes, c'est-à-dire qu'eux sont polythéistes, ils croient à plusieurs dieux, donc ça ne pose aucun problème de rajouter Bouddha, de rajouter Jésus. Et donc ils rajoutent la fête avec une différence, c'est qu'on ne peut pas avoir plusieurs seigneurs. Qui est le maître de nos vies? Et c'est ça le problème, on ne peut pas avoir Kali, Bouddha, Jésus et d'autres, parce que leurs enseignements ne correspondent pas complètement. Les chrétiens, est-ce qu'on croit à la réincarnation?
Non.
Est-ce que le monde est mauvais pour les chrétiens? Non. Le monde est bon. Pour la foi judéo-chrétienne, Dieu a créé le monde bon. Pour les hindous, le monde est mauvais. Et le but, c'est d'en sortir. Et de sortir du samsara, du cycle des réincarnations et tout ça. Donc, avec tout le respect que vous pouvez avoir, ne croyez pas que vous pouvez dire oui à tout le monde. Quand vous dites un oui, il y a toujours un non derrière. Quand on dit oui à aller à tel endroit, c'est qu'on dit non à aller à tel autre endroit au même moment. Si vous voulez tout faire en même temps, vous ne ferez rien de bien. Si vous voulez servir Jésus bien, vous ne pouvez pas servir Bouddha. Si vous voulez servir Bouddha, vous ne pouvez pas servir Jésus en même temps. Et c'était ce qui m'a frappé ce matin. Et pour Pierre, le disciple, l'apôtre de Jésus, ça a été cette question: comment servir Jésus? Comment être un vrai disciple de Jésus? Et j'aimerais vous montrer l'histoire de cet homme transformé qui est finalement aussi l'histoire de l'homme transformé, l'être humain transformé, qui peut s'appliquer à chacun d'entre nous. Parce que les combats que Pierre a vécus sont des combats que nous avons vécus pour la plupart du temps. Alors, Laurence, tu vas cliquer un coup sur la flèche droite en bas à droite du clavier. La flèche droite, oui. Ah. Alors... des assistants techniques, là il y a les... Tu cliques une fois dessus, voilà, c'est bon. Maintenant je peux me déplacer. Super, voilà, t'inquiète pas, c'est moi qui fais. Ok. On est béni d'avoir des personnes au niveau technique. C'est juste la multiplicité du choix qui est complexe, à qui on va demander. Donc c'est génial, ça c'est une bénédiction. Première chose qu'il faut se rappeler, c'est d'où vient Pierre? Quel a été son arrière-plan? Pierre était un homme simple qui a entendu parler du baptême de Jésus. On le voit ici, baptême de Jésus. Je vous donne une référence biblique. Ce graphique, j'ai imprimé quelques-uns. Pour ceux qui veulent, à la fin du sermon, vous me dites et je peux vous en donner un pour vous rappeler les points clés. Mais on va suivre ensemble. Il a entendu parler du baptême de Jésus. Comment? La voix de Dieu le Père était venue à ce moment-là. La voix de Dieu qui disait: c'est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Et comment l'Esprit Saint était venu sur lui, comme une colombe. Au début de, de l'histoire de Pierre, c'est Jésus rempli du Saint-Esprit. Et Jésus va venir, on peut lire dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, la rencontre la plus détaillée entre Pierre et Jésus. Jésus était pêcheur. Jésus va venir, va monter dans sa barque et va lui dire « Éloigne-toi, Pierre avait déjà pêché toute la nuit et il n'avait rien obtenu comme poisson. » Il était désespéré. Il s'est dit « Ce que je fais, ça ne porte pas de fruits. » Et parfois dans nos vies, on a l'impression que nos vies sont des échecs. Parfois on a l'impression que ce qu'on a fait n'a pas de valeur. C'était le cas de Pierre. Et la première chose que Pierre va faire avec Jésus, c'est qu'il va prendre un risque, il va dire « Ok, on va prendre le bateau pour l'éloigner un peu. » Jésus va parler du bateau pour qu'il ne soit pas écrabouillé par les foules, si vous voulez. Et ensuite, il va dire à Pierre « Va au large, on va aller pêcher. » Et Pierre lui dit « Mais on a déjà pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, puisque tu me demandes, je vais le faire pour toi. » Et c'est ce que va faire Pierre, il va partir au large. Alors là, pour le jour de la Pentecôte, je suis rappelé que la Pentecôte, c'est le souffle de l'esprit. Là, je l'ai directement, je vais essayer de me mettre ici quand même. Quand Pierre va partir au large, Jésus va lui dire « Jetez vos filets ». Ils vont jeter les filets et ils vont prendre beaucoup de poissons. Tellement de poissons que les deux barques, celle de Pierre et celle de ses amis, vont être remplies à ras-bord. À tel point que les bateaux avaient des risques de s'enfoncer. Celui qui connaît le mieux la pêche ici, ça va être Rémi. Rémi, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre tellement de poissons que ta barque s'enfonce et que tu te dis « je ne vais pas arriver à rentrer » Ça t'est déjà arrivé? Oui. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Et Pierre, sa barque s'enfonçait aussi et ils ont quand même réussi à rentrer. Mais quand il a vu ça, Pierre, il s'est dit « J'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien pris comme poisson. » Et là, Jésus, il me dit d'y aller. Normalement, la pêche, c'est meilleur la nuit ou au petit matin, mais pas en pleine journée quand il fait chaud. Et là, en pleine journée, quand il fait chaud, Jésus lui dit « Lance les filets » et il ramasse tellement de poissons que la barque s'enfonce. Pierre va tomber à genoux, va dire « Éloigne-toi de moi, Jésus, je suis un homme pêcheur. » Pêcheur avec un accent aigu, hein. En français, on a le problème pêcheur, celui qui pêche des poissons, et pêcheur, celui qui commet des péchés. C'est une occasion de jeu de mots, mais il faut bien distinguer. Il dit « Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme qui commet des péchés. » Pierre savait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en ordre dans sa vie. Et Jésus ne va pas s'éloigner. Il va enseigner Pierre. Il va en faire un disciple. Il va le former. Et vous voyez, la prochaine image, ça va être dans la tempête, à nouveau dans une barque. Jésus va dire à ses disciples « Allons de l'autre côté ». Ils vont partir en barque. Et pendant le voyage, Jésus, il n'a aucun problème. Lui, il est endormi sur un coussin. J'imagine qu'il avait peut-être quelque chose qui le protégeait parce qu'il y a une tempête. Et en général, dormir pendant une tempête, ça n'est pas facile. Mais c'est ce que Jésus faisait. Et c'est un enseignement pour nous, que Jésus était capable de dormir même au milieu de la tempête. Et les disciples le réveillent et lui disent « Jésus, est-ce que tu te rends compte qu'on va périr? Ça ne te fait rien du tout? Tu dors alors que tu vas mourir ?» Jésus, il se lève, il lui dit « Calme-toi !» à la vague, et les vagues se calment. Là, Pierre et les autres disciples se disent « Qui c'est celui-là qui commande même à la mer, même aux forces naturelles ?» Parce que des fois, on oublie que Dieu est le Créateur, et que si on est proche de Dieu, on peut demander des choses et Dieu peut avoir une influence sur le temps. C'est incroyable. Mais si vous croyez que Dieu est créateur, vous êtes amené à prendre conscience que Dieu peut agir même sur le temps. Et des fois, vous serez surpris comment Dieu peut utiliser le temps pour vous toucher ou pour toucher d'autres. C'est ce que Dieu peut faire et c'est ce qu'il a fait pendant cette tempête en calmant la tempête à la parole de Jésus. Et Pierre commence à découvrir que Jésus est plus qu'un enseignant. Pierre est enseigné par Jésus pendant des années. Un des enseignements les plus importants, c'est Matthieu 5 à 7, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et Jésus enseigne Pierre. Pierre boit les paroles de Jésus. Il est formé, il est instruit par Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'on est instruit que l'on va faire tout ce que ses instructions nous disent. Et quand Jésus va marcher sur l'eau, à nouveau, la barque, à nouveau, une tempête, Mais là, Jésus n'est pas dans la barque. Donc les disciples, ils ne peuvent pas s'approcher de Jésus, ils sont terrifiés. Et Jésus va marcher sur la barque. Et c'est le texte que Sandra a mentionné il y a quelques semaines, où Jésus marchant sur l'eau, alors là on ne voit pas très bien, mais il y a un petit bonhomme qui essaye de sortir de la barque. Ça c'est Pierre. Pierre il dit...
Pardon.
Pierre il dit, Jésus, dis-moi de venir vers toi. Pierre commence à comprendre une chose, que si on marche sur la parole de Jésus, on peut faire toute chose. Et il fait un test, il fait une expérimentation, si vous voulez. Moi, je suis un scientifique, donc j'aime bien parler de manière scientifique. Il fait une expérimentation, il dit, « Ok, ça marche pour toi, ta parole est puissante, est-ce que si tu me dis de marcher sur l'eau, moi aussi je vais pouvoir marcher sur l'eau ?» Et Jésus lui dit, « Viens. » Pierre prend son courage à deux mains, il sort de la barque et commence à marcher. Et le micro ne tombe pas chez Pierre. Mais chez moi, il tombe un petit peu. Alors, on va l'attraper ici. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre commence à marcher. Et quand il commence à marcher, il voit que l'expérience marche, que vraiment, si on suit les paroles de Jésus... Alors, si vous êtes en bateau, je vous donne un conseil. Ne sortez pas de la barque en vous disant, je vais tester Jésus. Posez-vous la question, est-ce que Jésus vous a dit, viens ? Et si vous ne connaissez pas très bien Jésus, n'essayez pas trop de sortir du bateau pour l'instant. Essayez d'apprendre à mettre en pratique ses enseignements sur terre ferme d'abord. C'est ce que Pierre a fait. Là, il a déjà eu quelques leçons, Pierre. Hein. Donc, petit conseil pratique. Hein. Jésus est capable de faire ça avec vous, mais pas quand vous ne le connaissez pas bien et pas quand vous ne reconnaissez pas bien sa voix dans la vie de tous les jours. Et Jésus a invité Pierre, mais... Pierre, dans sa foi commençante, va regarder les vagues, ne va pas regarder à Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer quand il regarde les vagues et le vent ?
Il s'enfonce.
Il s'enfonce. Si on s'appuie sur la parole de Dieu, on est capable de faire des miracles. Et les miracles, ce n'est pas quelque chose pour les fous, c'est quelque chose pour les gens de bon sens qui sont prêts à observer ce qui se passe dans ce monde. Et je vais être honnête avec vous, il n'y a pas que les chrétiens qui font des miracles. Il n'y a pas que les chrétiens qui font des miracles. Soyez-en conscients. Mais nous croyons que, en Dieu, ces miracles viennent d'une puissance positive, d'une puissance bonne. Parce que ce n'est pas tout de faire des choses surprenantes. Encore faut-il les faire pour le bien des autres et non pas pour notre orgueil. Il y avait un chrétien qui s'appelait Yong Gicho qui avait vu des bouddhistes ressusciter des morts. Et il s'était dit, c'est un chrétien en Corée du Sud, et il a dit, si les bouddhistes peuvent faire ça, moi, je vais demander à Jésus de pouvoir le faire aussi. Et il a eu la foi de le demander, et il a vu des miracles de ce type. Mais attention, il n'a pas fait ce que lui voulait. Il a fait ce que Dieu voulait. Il a appris à discerner la volonté de Dieu. La foi que les miracles sont possibles, c'est pour aujourd'hui. Ce monsieur Yong Gicho, il a la plus grande église en Corée aujourd'hui. Je ne vous parle pas d'un homme d'il y a 4 siècles. Je vous parle d'un homme qui était avec une maladie ou dont il devait mourir, et Dieu l'a guéri en lui disant « Va annoncer mon évangile ». Et la Corée du Sud est aujourd'hui un pays chrétien. Plus de 50% des personnes en Corée sont chrétiens. Alors qu'il y a 100 ans, il n'y avait que quelques missionnaires au maximum. Pierre commence à marcher sur l'eau. Jésus le rattrape en dernier moment quand il commence à perdre la foi. Mais on voit que Pierre grandit dans sa foi. À un moment donné, Jésus va demander « Qui est-ce que vous dites que je suis ?» Pierre va confesser que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est le summum dans le commencement de la vie de foi de Pierre. Mais juste après, Jésus va dire une autre parole. Il va lui dire, je dois vous dire une chose, le Fils de l'homme va être condamné à mort et va être crucifié. Mais après 3 jours, il ressuscitera. Et là, toute la foi qui a commencé pour Pierre, cette foi dans un Jésus puissant qu'il peut faire plier toute opposition, qui peut transformer toute maladie, qui peut chasser tout mauvais esprit, qui peut calmer les tempêtes. Ce Jésus est en train de dire à Pierre, je vais mourir. Quelle va être la réponse de Pierre ?
Impossible.
C'est impossible. C'est impossible, tu ne vas pas y arriver. Et ça, c'est la deuxième étape. Ça va être la fausse assurance et la chute de Pierre. elle commence déjà par cette difficulté de Pierre à croire que l'on peut souffrir quand on est croyant. La difficulté à croire qu'on peut souffrir et que le but de Dieu, c'est pas que tout aille bien pour nous, c'est que le monde soit transformé et que nous soyons transformés. Le but de Dieu n'est pas de nous donner un palais. Le but de Dieu n'est pas de nous donner une Cadillac ou une immense voiture, une immense maison, un immense bateau. Le but de Dieu, c'est de nous transformer pour qu'on soit à son image. C'était le but de Dieu depuis la création. Dieu a créé l'homme et la femme, comment ? À l'image de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut que nous soyons ?
Comme lui.
Comme lui, à son image. Il veut que nous soyons comme Jésus. Est-ce que Jésus a eu une grande maison, beaucoup de serviteurs et aucune souffrance ?
Non,
je suis désolé, mes frères et mes sœurs, non. Et Pierre, c'est son combat. C'est qu'il a du mal à comprendre ça. Il a du mal à comprendre que Jésus est le Dieu serviteur. Le Dieu qui est venu les servir. Et c'est ce qui va se passer dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Alors que Jésus se prépare à mourir, il va mettre une serviette autour des reins et va commencer à laver les pieds des disciples. Ça Pierre, il ne comprend pas. Il se dit, c'est pas possible. Ça, mon Seigneur ne peut pas être mon serviteur. Et va lui dire, tu ne me laveras pas les pieds. Qu'est-ce que lui répond Jésus ? Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as aucune part à mon ministère. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'es plus mon disciple. Pierre, il est choqué. Il lui dit, oh, si tu veux me laver les pieds, alors non seulement lave-moi les pieds, mais lave-moi aussi la tête et les mains. Il se dit comme ça, ça va faire un peu moins honteux pour moi. Non, il lui dit, tu t'es déjà lavé, Pierre. Je suis en train de faire quelque chose que tu ne comprends pas. Laisse-moi faire, tu comprendras plus tard. Et Pierre, ne comprenant pas, le laissera lui laver les pieds. Ensuite, il va y avoir plusieurs événements. Il va y avoir, vous voyez ce petit coq ici ?
Oui.
C'est quand Jésus encore, non seulement dit qu'il va mourir, mais dit, chacun de vous, chacun de mes disciples, vous allez m'abandonner à un moment. Quand on va m'emprisonner, vous allez m'abandonner. Est-ce que Pierre, il lui dit, ok, on va t'abandonner ?
Non.
Il lui dit, non, on ne va pas t'abandonner. Nous, on va être avec toi. Fausse assurance. Vous vous rappelez du titre de ce passage ? Fausse assurance et chute. Après le commencement de la foi, le début de la foi de Pierre, c'est la fausse assurance. Que chacun d'entre vous, peut-être vous avez vécu où on se dit, je connais Jésus, je sais comment il marche. Vous priez et vous vous dites, ça c'est ce que Jésus veut. Et Jésus ne fait pas ce que vous voulez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça ?
Oui, bien sûr.
Cette assurance qui n'est pas sur Dieu, parce que si votre foi est en Dieu et que vous faites la volonté de Dieu, vous êtes capable de marcher sur l'eau. Est-ce que vous est déjà arrivé de vous dire, ah, j'ai compris comment Dieu marche, c'est une technique, je lui demande et il fait ce que je veux. Problème, c'est que nous, on a oublié qu'on doit être transformé pour que Jésus obéisse à notre parole. Pour que Jésus obéisse à notre parole, il faut qu'on obéisse à toute la parole de Dieu. Être des serviteurs complets de Dieu. Et nous, on aimerait bien dire, j'ai compris le truc, je dis à Jésus, t'es mon Seigneur. Après, je continue à faire les choses que je veux faire. Je vais regarder des films qui n'honorent pas Dieu. Je vais parler de manière qui n'honore pas Dieu. Je vais dire des choses méchantes. Mais je suis serviteur de Dieu. Ça, c'est le Pierre de la fausse assurance. Ça nous arrive à tous. De croire que parce qu'on a fait des trucs et qu'on a dit je te remets ma vie Dieu, ça y est, on est capable d'obtenir la puissance de Dieu. Et Pierre, il est là et il va dire à Jésus, non, tu ne vas pas mourir comme ça. On ne va pas te renier du moins. Il a accepté plus ou moins déjà que Jésus va mourir, mais Pierre, il lui dit, moi, je ne vais pas te renier. Même si je devais donner ma vie, je ne te renierai pas. Est-ce que Jésus lui dit, si tu me renieras ? Et Pierre qui dit, non, je ne te renierai pas. Si tu me renieras.
Non,
il n'a pas fait comme ça, Jésus.
Non.
Jésus, il parle une fois, et après il dit, tu fais ce que tu veux, moi je ne me répète pas. Je te le dis simplement. Et après, il s'est tu, Jésus. Après, il a été prié. Vous voyez, là, Jésus est en train d'essayer de réveiller deux personnes, ou trois personnes. C'est qui, ces personnes ?
Ce sont les disciples les plus proches.
C'est Pierre. Jacques et Jean, qu'il a emmené avec lui. Il leur a dit, mon âme est triste à en mourir. Je souffre, parce que lui, il savait ce qui se passait. Il avait compris que ses disciples, pour eux, ils n'étaient pas encore prêts à accepter qu'il allait souffrir. Pour les croyants, c'est toujours une tentation de croire qu'on ne va pas souffrir. On se dit, c'est bon, j'ai tout compris, je ne vais pas souffrir. Je peux marcher sur l'eau avec Jésus, on peut guérir les malades, on peut chasser les démons. C'est bon, j'ai la technique pour être heureux pour toute ma vie. Et c'est là que Jésus, il nous montre que lui, il va passer par la souffrance et par la mort. Et il prépare ses disciples à être avec lui comme ils peuvent. Et il leur dit, priez avec moi. Vous ne comprenez pas tout, mais priez avec moi. Et Jésus s'éloigne un peu, il prie, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce qu'ils font les disciples?
Ils n'arrivent pas.
Ils étaient censés prier, ils sont...
Ils n'arrivent pas à rester éveillés. Il reviendra 3 fois, Jésus. La 4e fois, il dira, vous pouvez dormir, c'est fini. Le moment est passé. Et pourquoi Jésus voulait qu'ils prient? Parce qu'il leur avait dit, l'esprit... Et volontaire, ou vas-y, notre...
Ne pas entrer en tentation, c'est des tentations.
Et Jésus, tout à fait, et Jésus va dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans vos vies, est-ce que c'est la chair qui règne ou l'esprit? Dans vos vies, est-ce que c'est les passions? La chair, c'est pas mauvais, hein? C'est juste cette dynamique psychique qui fait partie de nous, mais qui doit être soumise à Dieu. Qui ne doit pas être arraché. Votre but en tant que chrétien spirituel, c'est pas de dire je ne souffre plus, mais de dire en toute chose, je vais chercher la direction de Dieu. Je ne vais pas laisser ma colère m'envahir, je ne vais pas laisser mon désespoir m'envahir, je vais me tourner vers Dieu. Et Jésus, c'est pour ça qu'il avait amené ses disciples, pour pas qu'ils soient désespérés, qu'ils se tournent vers Dieu. Mais ils vont s'endormir, ils ne comprendront pas. Juste après, Jésus est emprisonné. Quand Jésus est emprisonné, est-ce que Pierre est content?
Non.
Non. Qu'est-ce qu'il va faire, Pierre? On le lit dans l'évangile de Jean. Il va prendre une épée.
Il va couper l'oreille.
Il va couper l'oreille d'un des serviteurs du grand prêtre, qui s'appelait Malchus. On lit ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, versets 1 à 11. Et Jésus lui dit, laisse tomber ton épée. C'est pas ce que je veux faire. Celui qui combat par l'épée mourra par l'épée. Ça, on le trouve dans l'évangile de Luc. Et il va même guérir l'oreille du serviteur parce que Jésus n'a jamais blessé qui que ce soit. Jésus n'a jamais tué qui que ce soit. Mais il a mis en garde, il a dit attention, si vous êtes infidèle à Dieu, il y aura la vie, la mort éternelle. Ça c'est une réalité. Mais lui n'a jamais blessé qui que ce soit et a même guéri ceux que Pierre a blessés quand il ne comprenait pas ici. Pierre ne comprenant pas, lâche l'épée et dit je ne pige plus rien. Il s'enfuit. J'y comprends plus rien. La souffrance, je peux pas. Suivre un maître qui a du succès, oui. Suivre un maître qui est humilié, emprisonné et qui va mourir, ça je peux pas. Pourquoi il peut pas, à votre avis? Pourquoi il peut pas?
Parce que peut-être il se dit que Jésus a les moyens de lutter contre ça et il ne le fait pas, il se laisse faire.
Il se laisse faire, parce qu'il a un but plus grand encore. Il n'y a pas de plus grand amour que...
De donner sa vie
pour ce qu'on aime.
Oui, c'est un homme plein de doutes, Pierre,
oui.
Qui nous ressemble beaucoup, enfin nous ressemblons beaucoup à Pierre, et ça nous rend son chemin, comment, par identification, plus riche d'enseignement que s'il était saint tout de suite.
Bien sûr, bien sûr. Ça c'est fondamental, et l'évangile de Marc est l'évangile qu'il a le mieux compris, qui montre tous les échecs des disciples, et ça nous rassure. Mon but n'est pas de vous dire « Ah, vous êtes nul » ou « Ah, je suis nul », c'est de dire « Regardez comment Pierre va être transformé par Dieu. Regardez comment notre humanité va être transformée par Dieu. » Pierre, c'est l'homme transformé. Un exemple, c'est pour ça que Pierre va être le premier à guider l'Église, parce qu'il a vécu cette transformation au profond de son être et il a compris ce qui est en jeu. Et quand Jésus est emprisonné, Pierre, il a un problème. Jésus lui a dit « Suivez-moi » et il a même dit « Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Si on me persécute, on vous persécutera. » Qu'est-ce qui se passe si Jésus va mourir sur la croix, s'il va mourir et que Pierre est le disciple de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire?
On peut le tuer aussi.
Ça veut dire qu'il doit prendre le risque lui-même d'être tué. Et ça, plus ou moins consciemment, c'est très difficile à accepter pour un être humain, la mort. On ne veut pas la mort. On vit notre vie en essayant de fuir la mort. On la fuit de toutes les façons qu'on peut, avec la protection de santé, avec les protections contre les gens qui nous voudront du mal, avec, et il y a un élément d'humain dedans, mais il y a un moment où nous avons à prendre conscience que par amour, nous devons prendre des risques. Et Jésus le sait. Et des fois, il vous arrivera d'accepter des choses désagréables pour vous par amour pour l'autre. Et ça, c'est une étape que Pierre a du mal à comprendre encore. Après cela, qu'est-ce qui se passe? Il va suivre de loin Jésus parce qu'il ne l'a pas quand même complètement abandonné. Il ne comprend pas très bien. Et il y a une femme, une servante du grand prêtre qui dit « Ah, toi, tu étais avec Jésus !» Il dit « Non, non, je n'y étais pas. » Après, il revient, elle lui redit, elle ou une autre servante, « Si, tu étais avec lui, hein, toi ?» Non, 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 non. Troisième fois, il va se chauffer autour du feu parce qu'il veut savoir ce qui va se passer. Il se dit « Mon Jésus, il va leur fermer le clapet à ces grands prêtres et il va leur montrer. » Il a quand même un espoir. Et il y a les soldats autour du feu qui entendent son accent galiléen et ils disent « Oh toi, t'étais avec le Jésus le galiléen aussi là ?» Il dit « Non, non, je n'y étais pas. » Et il promet, il jure de toutes ses forces que ce n'était pas vrai. Qu'est-ce qui se passe juste après ? Il entend le coq chanter. Et après que le coq ait chanté, Pierre se rappelle. Jésus savait déjà que Pierre allait tomber. Il savait aussi que Judas allait tomber. Mais il savait que Judas n'allait pas se relever, n'allait pas se repentir. Judas va être rempli de remords. Le remords, c'est on s'en veut, mais on ne se pardonne pas, et on se détruit de remords. Et Judas va se détruire de remords. Alors que Pierre, il a péché quelque part comme Judas. Judas, on pourrait dire, c'est Pierre. On pourrait comparer, on pourrait dire, Judas, il a pris en plus de l'argent. On dirait qu'il y a une préméditation. Mais c'est un péché quand même. Pierre a quand même.
Mais on peut penser quand même, monsieur le pasteur, que comme il veut être à l'extérieur pour pouvoir éventuellement sauver Jésus, ouais. il renie, mais pas au fond de son cœur.
Alors,
peut dire à un ennemi non, 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 et garder sa foi profonde dans son maître.
On peut le dire. Ce qu'on sait, c'est que Pierre a péché en reniant Jésus. Et qu'il s'est repenti après. C'est les deux points importants. Hein, de voir qu'il a abandonné Jésus à un moment donné. Mais Jésus, il savait. Et il avait préparé Pierre. Il lui avait dit, voilà, tu vas me renier, le coq va t'en chanter trois fois. Et il va même dire à Jésus dans l'évangile de Jean, mais après que tu sois retourné, affermis tes frères. Donc Jésus prépare Pierre à lui dire, tu vas avoir un passage difficile. Tu vas finalement faire ce que tu ne croyais pas que tu pouvais faire. Et de fait, Pierre ensuite va expérimenter la crucifixion, la mort de Jésus. Il va voir que Jésus va mourir, mais trois jours après, il va ressusciter. Et Pierre va être avec l'apôtre Jean, courir au tombeau. Et de fait, il y avait un petit espoir, une petite incompréhension chez Pierre. On pourrait dire techniquement qu'il n'a pas complètement abandonné Dieu. Mais en prédicateur, je vous dirais, ce n'est pas le point le plus important. Le point le plus important pour moi, c'est de vous dire, même si vous avez péché, vous pouvez revenir à Dieu. Parce que sinon, si je vous dis, oui, mais Judas, il avait vraiment péché. Les gens qui se disent, j'ai vraiment péché, ils se diront, il n'y a plus d'espoir pour moi. Et là, je vous dirais, lisez l'histoire de Paul. Lui aussi, il a même tué les chrétiens. Mais Dieu a ramené Paul. Et là, Paul, on peut dire qu'il y avait de la haine et de la mort dans son cœur. Même lui, Jésus a pu le ramener à lui. Pas parce que Paul a fait des efforts, mais parce que Paul s'est laissé toucher par la grâce de Dieu. Et là, il y a la crucifixion à mort, mais ce n'est pas la fin. Ça, c'est la fin de la fausse assurance et de la chute. La fausse assurance de Pierre, c'était que si on suit Jésus, on va être des maîtres, on va être des chefs, on va vraiment être les caïds spirituels. On va changer le monde. Et on va changer le monde. Je crois que l'Église a déjà changé beaucoup de choses dans le monde et va en changer. Mais pas comme on aimerait, pas avec facilité, par notre souffrance, acceptée avec humilité. Et c'est là que on va voir que Pierre va être pardonné. Jésus ressuscite et il va faire un petit déjeuner sur la plage. C'est dans l'évangile de Jean qu'on trouve ça, un petit déjeuner sur la plage. Et Pierre va venir, ils vont prendre beaucoup de poissons, encore une fois, alors qu'ils avaient déjà pêché sans trouver de poissons. Jésus va leur dire, allez pêcher, et là ils auront beaucoup de poissons. Ça vous rappelle quelque chose ?
Oui.
Au tout début. Et je peux vous assurer que Pierre s'est rappelé de ça aussi. Qu'est-ce qu'il a dit la première fois, Pierre ? Éloigne-toi de moi, je suis quoi ?
Pêcheur.
Un homme pêcheur. Et là, il est un homme comment quand Jésus revient ? Il est un homme qui a renié Jésus. Et Jésus va le rétablir. Il va lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Plus que tous les autres. Pierre lui dit oui. Ce que Jésus veut lui dire, c'est est-ce que je suis premier dans ton cœur ? Pierre va lui dire oui. Jésus lui dit ensuite, ben, paie mes brebis. Après, Jésus lui redemande, Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Il lui dit, oui, oui, Jésus, je t'aime, je t'aime. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Et Jésus lui dit une troisième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Là, Pierre est très attristé parce qu'il se dit, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Il lui dit, Jésus, tu sais tout, tu vois tout à l'intérieur de moi, tu sais que je t'aime, je ne peux pas te dire plus. Et Jésus lui dira, paie mes brebis. Pierre avait renié combien de fois Jésus ?
Trois fois.
Pierre va affirmer son amour pour Jésus combien de fois ?
Trois fois.
Jésus est celui qui aime pleinement Pierre et qui veut le réaffirmer, qui veut le rétablir. Avec un enseignement supplémentaire, c'est que, après qu'il l'a réaffirmé, il va dire à Pierre, « Oui, tu vas me suivre. » Et il va lui partager le fait que Pierre, à la fin de sa vie, va être emmené là où il ne voudra pas. Et qu'on va lui lier les mains et qu'il va mourir pour sa foi. Qu'est-ce qui se passe à travers ce passage ? Pierre va l'accepter, cette parole. Pierre a commencé à accepter que la foi ne va pas chasser la souffrance. Que la foi va transformer le monde, va être une bénédiction pour beaucoup, mais qu'il va devoir être serviteur et être prêt à donner sa vie pour ceux qu'il aime. Ça, c'est le passage de Pierre. Et pour que cela puisse être possible, ça va être le point clé, et on va finir en lisant un texte ensemble. C'est le texte de Actes chapitre 2, un petit peu long mais très important. Vous vous rappelez bien, rappelez-vous bien de ce Pierre, plein de fougue, plein de passion pour Jésus, mais d'incompréhension. Nous allons voir comment Pierre est transformé par la puissance de l'Esprit-Saint. On va se tourner, alors vous voyez le dessin pour la puissance, le rempli du Saint-Esprit, c'est quoi ?
Une colombe, un Pierre et une colombe à l'intérieur.
Quand on a le texte de la Pentecôte, on va le lire, on parle de langues de feu qui sont sur les personnes. Mais il est dit que les apôtres vont être remplis du Saint-Esprit. N'imaginez pas que si vous êtes plein du Saint-Esprit, vous allez avoir des petites flammes au-dessus de vous, que vous allez briller de tous les côtés. Si ça vous arrive, que le Seigneur vous bénisse, c'est possible. Hein ? Mais ce qui est important, c'est que vous êtes remplis à l'intérieur du Saint-Esprit. Que vous allez être rempli d'amour, de l'amour de Dieu. Et cela, c'est la transformation que Dieu a fait dans la vie de Pierre et qu'il veut faire dans vos vies. Après que Jésus soit ressuscité, il leur a dit, attendez jusqu'à la Pentecôte pour que j'envoie mon Esprit Saint. Dominique demandait, pourquoi est-ce que c'est le lundi de Pentecôte ? Alors au niveau théologique, le lundi de Pâques n'a pas de sens. Pâques, c'est dimanche. C'est dimanche, le jour de la résurrection. Mais la Pentecôte, ça veut dire, ça vient du grec qui est Pentakosta. Ça veut dire 50.
Oui.
Si Pâques est un dimanche et que vous comptez 50 jours, 50 jours c'est 7 fois 7, 7 fois une semaine, plus 1. 7 fois 7, 7 ça fait combien ?
49.
7 fois 7, 49, plus 1. Donc 7 fois 7, 49. Le 49e jour après Pâques tombe quel jour ? Dimanche. Et le 50e jour ?
Lundi.
Donc ce que nous célébrons, c'est la fête de demain. Mais comme nous avons le dimanche qui est libre, et que certains ont le lundi de Pentecôte libre, d'autres ne l'ont pas, nous fêtons la fête de Pentecôte déjà aujourd'hui. Le dimanche de Pentecôte.
Excuse-moi. Autant le lundi de Pâques n'a pas de signification, moi je me souviens d'un monseigneur Bruy qui disait à l'époque on faisait ça parce que les gens partaient loin pour Pâques, par exemple, ils ne pouvaient pas rentrer le lundi. Vous avez fait trop la fête, le lundi ne travaillait pas, donc ce n'était pas justifié bibliquement.
Ouais.
Et c'est paradoxal parce qu'ils ont permis que ce lundi de Pentecôte puisse être un jour où on travaille. C'est paradoxal. Ils auraient dû plutôt prendre le lundi de Pâques, qui n'a pas de
signe. Tout à fait.
Et bien ce jour-là, on fait la solidarité, le jeunesse solidarité.
Alors pensez.
À la Pentecôte, on aurait dû à la limite pas venir au culte aujourd'hui, venir lundi, dire les chrétiens, faites la Pentecôte lundi.
Tout à fait.
En rapport avec May, qui a beaucoup de. Qui s'achète beaucoup n'importe quel pouvoir.
La fête des mamans, la fête du travail, etc.
Donc, c'est très. Vous ne connaissez pas tout ce que tu viens de dire.
Voilà.
Il y en a qui doivent savoir.
Alors, rassurez-vous, ce n'est pas les chrétiens qui ont défini quel dimanche, lundi serait ou pas. C'est plus l'État pour des raisons de fête. Hein. Ouais. Et l'État est le chef de, pour décider quelles sont les fêtes. Le super champion de cette technique-là, vous savez comment il s'appelait, Il s'appelait Napoléon. C'est l'inventeur de la Toussaint. Il y avait trop de fêtes dans l'année. Vous savez ce qu'il a fait ? On va tous les regrouper, on va les mettre un jour et on vire toutes les fêtes pour les autres jours. Donc toutes les fêtes de saint, on les a mises la Toussaint, comme ça, à faire régler. Et l'État, il n'y a rien d'horrible. Hein. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est le lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, pardon, qui est le jour de célébration de Pentecôte. Alors, on va lire. Vous voyez la face de Pierre ici ? Elle est grande. Et la taille de l'esprit et du cœur ? C'est petit. Nous allons voir comment Pierre va devenir petit et l'Esprit Saint va devenir grand dans sa vie. C'est ce que Dieu veut faire dans vos vies, dans ma vie. Et c'est ce que dans notre Église, l'Église du Nazaréen, on appelle entière sanctification. C'est finalement la plénitude de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est être sanctifié. Esprit Saint, sanctifié, c'est la même racine. C'est pour ça que c'est le même dessein. Pour Pierre, ça s'est passé le jour de Pâques. Regardez bien, Pierre, c'est celui qui a eu peur quand il y avait les vagues. C'est celui qui s'est enfui quand Jésus a été emprisonné. C'est celui qui s'est endormi quand Jésus disait « Priez ». Regardez bien, écoutez bien le Pierre de Pentecôte. Regardez la différence qui se passe. D'abord, les quatre premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel du bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelle est la manifestation première de ce remplissement de l'Esprit ?
Il y a quand même un bruit, un vent.
Un vent ?
Oui, un bruit, un vent. Et les langues.
Et des langues. Alors, ces langues, ça va être des langues qui vont être un signe que les apôtres ne comprennent plus tout à fait ce qui se passe, mais les gens autour comprennent. Ces langues, on va voir, vont être comprises par les gens autour. Pourquoi ? Parce que le but de l'Esprit Saint, c'est de pas nous faire faire des choses folles, c'est de communiquer l'amour de Dieu aux autres. Et l'Esprit de Dieu, s'il vous utilise, il est possible que vous ne compreniez pas. Mais il faut qu'il y en ait un qui comprenne. Si vous ne comprenez pas et que les autres ne comprennent pas, il y a un problème dans votre truc. Hein ? Rappelez-vous de ça comme règle spirituelle et de base. Et l'apôtre Paul avait beaucoup de sagesse quand il disait le parler en langue. Des fois, vous pourrez, sous l'effet de l'Esprit Saint, parler une langue que vous ne savez pas ce que c'est. Mais la question que vous avez à vous poser, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ? S'il n'y a personne, qu'est-ce que vous devez faire ?
Arrêtez.
Arrêtez. Le but n'est pas d'impressionner les gens, le but est de transmettre l'amour de Dieu aux autres. C'est le conseil que Paul dira. Il dira, si dans une assemblée quelqu'un parle en langue, ça veut dire une langue que lui ne comprend pas, eh bien, soit quelqu'un peut expliquer, soit personne. Donc soit quelqu'un comprend cette langue, soit personne ne la comprend. Et donc si on avait dans notre assemblée quelqu'un qui dit des mots que personne ne comprend, qu'est-ce que je ferais ? Je suivrais le conseil de Paul, je viendrais respectueusement, ou une des personnes responsables de notre église viendrait et dirait, mon frère, est-ce que tu sais de ce que c'est ? Est-ce que tu peux le dire de façon compréhensible ? On ne le comprend pas. Le but n'est pas d'écraser, le but est de comprendre et de cheminer ensemble. Est-ce que ça veut dire que si vous parlez en langue, vous allez comprendre ce qui se passe ?
Pas forcément, c'est pour les autres.
Pas forcément, c'est pour les autres. Mais vérifiez si c'est pour les autres. Ça serait une façon de discerner. Il y avait une histoire récente, il y a quelques années, il y avait une réunion de prière et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui commence à parler dans une langue que personne ne comprend. Le responsable de la réunion de prière, ils avaient fait ça dans un bar parce qu'il y avait de l'espace et le barman devait être resté là parce que c'était la règle de cette salle. Le barman devait être sûr qu'il n'y avait pas des problèmes dans la salle. Donc, il parle et il y en a un qui prie dans une langue qu'il ne comprend pas. Le responsable lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu as dit ? Est-ce que quelqu'un a compris ce que ce frère a dit ? Les personnes disent non. Alors il dit, mon frère, on va s'arrêter là pour cela parce que si personne ne comprend, c'est le conseil de l'apôtre Paul qui est le conseil biblique. Et rappelez-vous, les conseils bibliques, ce n'est pas pour rien qu'ils ont été donnés, ça nous donne une sagesse. Et ils se sont arrêtés, ils n'ont pas continué. Le monsieur a dit d'accord, personne n'a compris, donc c'est pas la peine que je continue. À la fin de la réunion de prière, il y a le barman qui vient en pleurs auprès du responsable qui lui dit: vous pourriez me remontrer la personne qui a dit ces mots? Moi je viens d'Iran, c'était aux États-Unis, en Californie. Moi je viens d'Iran et ce monsieur a parlé en farsi parfait, dans la langue d'où je viens parfaitement. Est-ce que vous pouvez me montrer? Et cet homme, le soir même, a offert sa vie à Dieu. Dieu peut vous utiliser, même de cette façon. Et là, les apôtres ont été prêts. Qu'est-ce qui se passe avec la Pentecôte? On remet notre vie à Dieu et on accepte que lui contrôle notre vie. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus rien comprendre? Non. La plupart des choses, vous les comprendrez. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses, peut-être, que vous ne comprendrez pas? Peut-être, des fois, l'Esprit va parler dans votre cœur et va te dire: allez dire bonjour à cette personne aujourd'hui. Vous sentirez que... Et c'est le lieu du cœur qui va vous aider à discerner la volonté de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il faudra faire?
Suivre.
Apprenez à discerner la présence de l'Esprit. Vous avez besoin de deux choses. Demander l'Esprit Saint et apprendre à discerner sa parole, sa volonté. C'est la tâche la plus importante des chrétiens. Si vous n'apprenez pas ça, à discerner, à obéir à cette voix, vous ne pourrez pas être pleinement chrétien. Vous ne serez que des pierres non transformées. Vous ne serez pas des pierres vivantes. Vous ne serez pas un Pierre transformé. Vous ne serez pas un apôtre de Jésus transformé. Et c'est ce qui va se passer pour... Donc, dans ce cas-là, ils vont parler, ils ne vont pas maîtriser. Et la plénitude de l'Esprit, c'est ne plus maîtriser, de se laisser maîtriser par Dieu. C'est ça le point clé. Je vous lis le texte. « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. » Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: « Voici, ces gens parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens ?» Alors les galiléens, si vous voulez, c'est les gars de la banlieue. C'était pas les spécialistes des langues. Hein. C'était pas ceux qui connaissaient l'anglais, le chinois et puis l'arabe. Hein. C'était ceux, ils parlaient tout juste leur dialecte et ils avaient un gros accent quand ils parlaient. On dirait c'est des créoles, ce serait l'équivalent. Et ils se disaient, oh, c'est des créoles, c'est des galiléens, comment ils peuvent parler dans notre langue?
Mais c'était qui réellement comme nationalité? Est-ce qu'on le sait que ces hommes pieux...
Une minute, ça va être le premier, prochaine. C'est une bonne question, on va voir juste après. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient, ces gens parlent-ils, sont-ils tous galiléens? Comment les entend-on dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Alors, quelle langue? Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, c'est à l'est d'Israël. Le pont, l'Asie. L'Asie, c'est la Turquie moderne. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, ça va être du côté de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est. L'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome. Rome, ça va être du côté de l'Italie, donc. Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Crète, c'est l'île qui est entre la Grèce et la Turquie. Les Arabes. Donc les Arabes, ça va être ceux qui sont au sud d'Israël. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc finalement, ils ont parlé de gens au nord d'Israël, avec l'Asie, avec la Grèce, à l'est d'Israël, avec la Mésopotamie, au sud, avec ceux qui parlent en arabe, sud-ouest, avec ceux d'Afrique, et l'ouest, avec l'Europe, Rome. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ces paroles, c'était pas simplement des « Quelle heure est-il? Tu as vu, je parle crétois, je suis super balèze. » C'était des louanges de Dieu. Donc, si vous parlez en langue et que c'est la volonté de Dieu, dans un groupe, comment on va reconnaître ça?
Il faut
qu'il y ait quelqu'un qui comprenne.
Oui,
premier point. Et si c'est quelqu'un qui comprend, qu'est-ce que la personne va devoir faire?
Traduire
pour les autres. Parce que quand on est ensemble, c'est pour qu'on comprenne ce qui se passe. Deuxième point, quel type de parole ça doit être?
Une louange à Dieu.
Une louange à Dieu. Donc, c'est pas compliqué. Et il y a tous ces principes. Je dirais, la parole de Dieu a du bon sens. Ne perdez jamais votre bon sens dans votre relation à Dieu. Soyez prêts à être remis en question, à faire des choses surprenantes mais qui ont du sens. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » comme ils ne comprenaient pas, quand on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on dit ?
On discrédite.
On discrédite. On va dire du mal. On va dire, ils sont bourrés, ils sont sous. Parce qu'on ne veut pas reconnaître que finalement c'est Dieu qui est à l'œuvre. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Vous vous rappelez, Pierre ? Quand Jésus a été emprisonné, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il était dehors, qu'il savait que Jésus était jugé et qu'il savait qu'il risquait grave si on le jugeait avec Jésus, qu'est-ce qu'il a dit quand on lui a demandé est-ce que tu étais avec Jésus ?
Non, il a renié.
Il a renié, il a eu peur. Il a eu peur. Qu'est-ce qui se passe là ?
Il affirme.
Regardez Pierre, il est en train de parler à tout le monde. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ça, c'est le Pierre transformé. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Troisième heure du jour, c'est quoi déjà comme heure ça ?
Le matin.
D'accord ? Qui se rappelle ? 9 heures du matin. La première heure du jour, c'est de 6 à 7. 7 à 8, 9 à, 8 à 9. Donc, troisième heure, c'est 9. La troisième heure de l'après-midi, ça serait quoi ? Pardon, ce n'est pas un bon terme. La neuvième heure du jour, ça serait quoi ? 15 heures. La onzième heure du jour.
3 heures plus tard,
18. Alors, la 11e heure, ce sera 2 heures après, donc ça sera 5 heures de l'après-midi. Et après, c'est la première heure de la nuit, ça sera 7 heures du soir. Donc là, 3e heure du jour, c'est finalement 7 heures du matin. En Afrique de l'Est, on continue à compter comme ça. En Swahili, en Kenya, au Rwanda, au Burundi, au Congo, on compte comme ça encore. Alors, on continue. Mais ceci, ce qui se passe, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. J'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est seulement les hommes qui prophétiseront ?
Les enfants aussi.
Les enfants aussi ?
Oui.
Les femmes aussi ?
Fils et filles.
Fils et filles prophétiseront.
Tous les êtres humains.
Ouais.
Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des femmes qui auront peut-être un ministère ?
Oui.
C'est logique.
Ah oui.
Est-ce que ce sermon, à votre avis, il est important pour la foi chrétienne ? C'est le sermon de la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est adressé à tout le monde ou seulement à une petite église ? C'est le sermon que nous prenons dans l'église du Nazaréen comme référence pour affirmer avec confiance biblique que les femmes sont autorisées à prêcher. Il y a un texte qui va dans une autre direction, qui se trouve en Timothée, qui dit non. Mais il parle à une église spécifique, à une personne spécifique, qui lui dit non, ne permet pas aux femmes de prêcher. Et ça veut dire qu'il y a des cas où on pourrait dire non, les femmes ne peuvent pas prêcher. Tout comme on pourrait dire dans certains cas, on peut imaginer, de ce groupe-là, je ne veux pas qu'il y ait une personne qui prêche, parce que ces personnes-là ont fait du bazar. Mais, pour un texte pour toute l'Église, c'est celui-là que nous utilisons. Comme possibilité. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura autant de femmes qui seront ministres de l'Évangile que d'hommes, à votre avis ?
Non.
Non. Pour des raisons pratiques, parce que les femmes sont celles qui portent les enfants et pas les hommes, et que, je dirais, c'est une réalité, il y aura en général un plus petit nombre de femmes qui seront ministres. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être ministres de l'Évangile ? Non. Il y a du bon sens, mais toute l'humanité est rachetée. Ça, c'est l'opposition de la chute. À la chute, qui c'est qui a été tentée par le serpent ?
Ève.
Adam était avec elle, mais c'est Ève qui a croqué la première. Mais par la Pentecôte, l'humanité est invitée à être complètement renouvelée. Les hommes et les femmes à être des équipes. Ce n'est pas la femme la plus importante, ce n'est pas l'homme le plus important, c'est Dieu. Et nous sommes appelés à être des équipes pour témoigner de l'amour de Dieu. Et dans notre église, il y a eu 4 ans, on a eu une femme qui a été élevée au rang le plus élevé dans notre église, qui s'appelait, je ne me rappelle plus de son nom, mais elle avait été à ce stade-là. C'est possible, c'est une possibilité. Phoebe Palmer, c'était il y a un siècle, donc c'était pas exactement ça. Mais, donc c'est possible. Je continue, verset 19. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le ciel se changera en ténèbres et la lune en sang. Le soleil se changera en ténèbres. » Est-ce qu'on a vu ça ?
Oui.
À quel moment ? À quel moment on a vu ça ?
Quand
oui, quand il était sur la croix.
Quand il était sur la croix, le soleil.
Le moment où il meurt, quoi,
oui. C'est obscurci. La lune en sang. La lune aussi.
Mais ça veut dire rouge.
Alors, oui, la lune rouge, probablement.
C'est ça.
Voilà. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer le nom du Seigneur, ça veut dire reconnaître Jésus comme Seigneur. Si Jésus est Seigneur de vos vies, qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'il est le premier qui règne sur nos vies.
Qui règne sur nos vies. Et s'il est Seigneur et qu'il envoie son Esprit Saint pour régner, que l'Esprit Saint règne dans nos cœurs. Pierre continue. Écoutez bien et pensez à ce Pierre qui avait eu peur, à ce Pierre qui hésitait, qui doutait, qui se demandait. Regardez l'assurance, la foi, la paix, alors qu'il parle en risquant sa vie maintenant. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Est-ce qu'il a peur là, Pierre ?
Non. Il a de l'assurance.
De l'assurance. Vous, c'est vous qui l'avez tué. Dieu, lui, il l'a ressuscité. Et là, je peux vous assurer, il est heureux, Pierre, de vous leur dire ça. Il l'a ressuscité, Dieu, en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Parce que Jésus n'avait pas péché, la loi spirituelle qui était présente depuis Adam n'était pas valable en Jésus. Celui qui n'a jamais péché, il n'a pas de raison de mourir.
Jésus,
Jésus n'a jamais péché de sa vie.
Et la colère qu'il a eue devant le temple.
Alors, est-ce que la colère est un péché ?
La colère sainte.
La colère est un péché quand elle détruit. Mais même en psychologie, on se rend compte que quand on dit à quelqu'un de ne jamais être en colère, on crée beaucoup de gens qui sont dépressifs en général. Parce que la colère fait partie des expressions des émotions humaines. La seule question à dire, c'est est-ce que vous êtes possédé par votre colère ? Est-ce que vous êtes prisonnier de votre colère ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez choisi à un moment pour communiquer quelque chose et dont vous sortez ensuite ? Il ne s'est pas laissé envahir par la colère.
Alors c'est la traduction qui n'est pas bonne. Parce que je pense que ça serait mieux de dire la véhémence.
Oui. Alors on pourrait.
La colère, c'est vachement connoté négatif.
Alors, cette connotation, je dirais, soit on change la connotation, soit vous changez le terme, vous avez les deux options. La langue française étant pas la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Mais là, fondamentalement, c'est la même chose. De comprendre qu'on peut s'opposer fortement à quelqu'un et dire je suis pas d'accord, c'est pas juste ce que tu fais, et si tu fais ça, mais si on parle enraciné en Dieu, c'est bon. Et Paul ne dira jamais ne soyez pas en colère. Qu'est-ce qu'il va dire?
Votre colère, je sais pas,
ne vous endormez pas sur votre colère. En gros, la colère est une émission et une émotion saine. Et quand on a quelqu'un qui nous a fait du mal, la colère est une réaction normale, mais il ne faut pas la laisser régner. Il ne faut pas la laisser régner. Il faut que ça soit un moment. C'est une révolte face au mal. Mais cette révolte, ça ne doit pas être quelque chose qui nous emprisonne et qu'après on soit des gens coléreux, des gens hargneux. Ça, si on devient hargneux, si on devient amer, souvent il y a des pardons. Des pardons auprès des autres à donner, des pardons auprès de nous-mêmes. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Pierre et Judas ? Est-ce que Judas, après qu'il ait fait ce qu'il ait fait, il a dit c'était génial, j'ai bien fait de le tuer ?
Il
a eu du remords. Se repentir, c'est dans la relation en fait. Hein? Ça va bien, c'est des termes techniques, mais c'est bien que vous voyez la différence. Se repentir, c'est dans la relation avec Dieu. Pierre s'est tourné vers Dieu et a dit « pitié ». Judas ne s'est pas pardonné. Et l'amertume souvent vient du fait qu'on ne se pardonne pas. On aimerait être quelqu'un d'autre. Et quand on ne se pardonne pas, on se détruit nous-mêmes. On a à pardonner à l'autre et on a à se pardonner. Ce n'est pas une option. C'est le chemin que Dieu veut. Et quand vous vous pardonnez, ce n'est pas pour dire « je suis génial », c'est dire « je suis très, très petit, mais avec la force de Dieu, je peux arriver à quelque chose ». Eva, tu veux poser une question ?
Oui, je veux dire, en fait, quand elle parlait de Judas et de Pierre, en fait, Jésus est mort pour Judas aussi. Donc, c'est parce qu'il est mort pour l'humanité entière.
Mort et mort pour Jésus est mort pour Judas ? Tout à fait.
Si c'était repenti, donc il aurait été pardonné.
Oui. il y avait cette option. Et pensez à Paul, qui lui a tué les chrétiens, en a mis en prison, a souri et a gardé les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne, ce témoin brillant de l'évangile, dont la face était à l'image d'un ange quand il parlait. À l'image d'un ange. Pas en train de les engueuler comme un démon. Comme un ange. Et ils l'ont lapidé à mort. On lit ça dans les Actes des Apôtres au chapitre 7 et début du chapitre 8. Même Paul a pu être transformé. Alors regardez bien toujours comment Pierre est transformé par la puissance de l'Esprit. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il était à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue est dans l'allégresse. » Et même ma chair repose avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. David parlait de Jésus ici, mais il parlait aussi de tous ceux qui sont morts dans la foi, qui ne seront pas à la fin de leur chemin par la mort, mais ça sera une étape. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. La victoire sur la mort est possible en Dieu. Homme, frère, Pierre n'a pas fini. Qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, et que Jésus est descendant de David, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est le Jésus que Dieu a ressuscité. Ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Là, il leur dit, moi je suis témoin. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il leur dit, si nous sommes ici et que nous parlons, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, « Le Seigneur a dit de mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur le Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Il a peur là qu'il lui arrive la même chose à votre avis ?
Non.
Aucune peur. La peur a été chassée par la foi et par quoi ? Par l'Esprit Saint. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Les personnes sont touchées. Ils ont participé. Vous imaginez les gens de la foule qui avaient dit, « Ouais, crucifie-le à Jésus !» Qui voient que Jésus a été crucifié. Et après, ils se disent, « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit de crucifier cet homme qui avait fait des miracles, qui avait montré l'amour de Dieu ? » Waouh ! Pierre, il leur dit, « Repentez-vous. » Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péchés. Vos péchés et quoi ? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Oh, pardon. C'est une erreur. On peut cacher l'écran ? Tu peux appuyer sur le petit bouton en haut. Vous voyez la transformation de Pierre, l'apôtre ? Vous voyez comment cet homme plein de questions, cet homme honnête, sincère, qui cherchait à suivre Jésus, a eu du mal à comprendre. Comprendre qu'il avait à être prêt à souffrir pour sa foi. Et vous allez reconnaître si vous êtes rempli de l'esprit comment ?
Par nos actions.
Est-ce que vous êtes prêt à consacrer votre vie entière à Dieu ? Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour Dieu ? Est-ce que vous êtes prêt à souffrir pour Dieu ? Si vous n'êtes pas prêt, j'aimerais vous dire, ne soyez pas surpris que l'Esprit Saint n'est pas en vous et que vous passiez toute votre vie chrétienne en disant « Oui, j'ai peut-être reçu un petit bout d'esprit au baptême, mais je ne sais pas trop. » Je vous souhaite de ne pas expérimenter ça, mais de pouvoir dire avec assurance « J'appartiens à Christ. » Pour ma part, j'ai expérimenté cette joie, nous on appelle ça entière sanctification, vous pouvez appeler ça plénitude de l'esprit, c'est pas important. L'important c'est que vous le viviez, de dire, j'ai soumis ma vie à Dieu complètement, et j'ai demandé à Dieu l'Esprit Saint, et j'ai expérimenté Dieu qui m'a rempli de sa paix, de sa grâce, et je sais à tout moment que Dieu m'aime et que c'est lui le Seigneur de ma vie et je suis prêt à mourir pour lui. Pour ma part, j'ai expérimenté ça il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à genoux au pied de mon lit, je lisais un livre qui parlait de ça et j'ai dit: Seigneur Jésus, la pureté, ce n'est pas le cas. Je vois bien, dans mon cœur, il y a des choses impures. Mes pensées, si on les mettait sur un écran, ça n'irait pas. Et je veux être pur, je veux t'appartenir, je suis prêt à mourir pour toi. J'avais déjà été humilié par ma famille quand je suis devenu chrétien. J'avais été déjà rejeté sous certains aspects. Mais j'avais à me soumettre comme Paul, comme Pierre, et Paul d'ailleurs l'a fait, et dire: emplis-moi de ton esprit. Rends-moi pur. C'est l'appel pour chacun d'entre vous. Et c'est l'occasion à la Pentecôte de vous dire: est-ce que je suis prêt à demander à Dieu, à me consacrer entièrement à Dieu, comme Pierre? Est-ce que vous êtes arrivé au moment où vous voyez que votre foi, ça ne marche pas très bien, qu'il y ait des fois, vous demandez des trucs et que ça ne correspond pas à la volonté de Dieu? Eh bien, je vais vous dire, vous êtes encore dans la phase où vous avez discerné la volonté de Dieu, à vous soumettre complètement à la volonté de Dieu, à mourir à vous-même. Jésus a dit: celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il se renie lui-même et qu'il me suive. C'est un critère pour être rempli de l'Esprit Saint. Il faut que vous vous soumettiez pleinement à Dieu. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui? S'il y a des personnes aujourd'hui qui sont prêtes à se soumettre à l'Esprit de Dieu, je vous invite à vous mettre à genoux. Tous ceux qui disent: non, ce n'est pas encore le moment, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un mouvement de condamnation, je ne vais pas compter, je ne vais pas regarder, je vais m'agenouiller moi-même et vous dire: Dieu peut vous purifier, je l'ai expérimenté dans ma vie, je ne suis pas un surhomme, je suis un petit chrétien, mais je peux dire: j'ai expérimenté la grâce de recevoir la pureté de l'Esprit Saint et de voir ma vie transformée, de voir que si mes pensées étaient projetées sur un écran, je n'aurais à rougir d'aucune d'elles. Si vous deviez voir ce que je pense le matin, le soir, si vous deviez écouter ce que je dis le matin ou le soir, je n'ai aucune peur. Par la sagesse, il y a certaines choses, on les dit à certaines personnes ou à d'autres, mais je n'aurais à avoir honte d'aucune devant le Seigneur. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous voulez expérimenter ça, d'être transformé par l'Esprit Saint, d'être rempli de l'Esprit de Dieu? Pour ceux qui veulent, je vous invite à vous mettre à genoux, avec Pierre qui s'est mis à genoux, par la foi, pour inviter l'Esprit Saint. Si vos genoux sont douloureux, moi mes genoux ils sont un peu douloureux, il n'y a pas de critère de se mettre à genoux. Vous pouvez dans votre cœur vous mettre à genoux devant Dieu. Ça va aussi. Mais je vous invite à consacrer votre vie aujourd'hui et à dire à Jésus: remplis-nous. Remplis-nous de ton esprit. Nous voulons vivre cette transformation que Pierre a vécue afin qu'on puisse prêcher en public. Et j'ai vécu cette joie de pouvoir prêcher dans les rues en Suisse alors que je risquais mon travail chaque jour. J'étais assistant en théologie à la faculté catholique. Et j'ai prêché par la grâce de Dieu dans les rues en sachant que je risquais mon boulot quand j'allais prêcher. Je ne risquais pas la prison, mais je n'avais même pas de soucis parce que l'Esprit de Dieu donne cette confiance, donne cette assurance qui vous permet en tout temps d'être fidèle à Dieu, d'être rempli de l'Esprit Saint. Prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous de l'Esprit Saint. Remplis chacun de nous. Tu connais, Seigneur, ceux qui te demandent. Tous ceux qui te demandent, je m'unis à eux. Remplis-nous, nous consacrons notre vie à toi. Nous consacrons nos matins, nos soirs. Nous te consacrons nos cœurs, Seigneur, nos pensées, nos actions. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Non seulement nous t'accueillons comme Seigneur, mais nous voulons que l'Esprit Saint règne en nous. Tu l'as envoyé pour qu'il nous guide. Et quand il ne règne pas en nous, Seigneur, on ne peut pas te suivre pleinement. Comme Pierre qui luttait. Mais si on reçoit ton esprit, Seigneur, il n'y aura pas de doute. On va voir des transformations parce que tu les fais. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit. Nous te le demandons, Esprit Saint. Te le demandons, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-nous, Seigneur. Si certains veulent prier, je vous invite à prier. Seigneur Jésus-Christ, tu nous vois et tu nous connais. Tu connais chacun de nous ici même. Tu entends nos paroles, des fois peut-être tu souris, des fois tu pleures avec nous, des fois tu te réjouis avec nous. Seigneur, sanctifie notre Église, sanctifie-nous, remplis-nous, que nous puissions expérimenter cette joie de savoir qu'on t'appartient, qu'on est soumis à toi, à ton amour, afin que nous portions ton fruit, comme Pierre a porté ton fruit, un fruit qui a transformé ce monde. Et si on se réjouit aujourd'hui, si on célèbre la Pentecôte, c'est parce que Pierre a prêché le jour de Pentecôte la puissance de ton esprit, qu'il a prêché le fait que ton esprit était là pour ceux qui étaient prêts à l'accueillir. Aide-nous, Seigneur, pour ceux qui seront transformés, de reconnaître, oui, l'esprit est venu me toucher dans ma vie, avec humilité, c'est pas une occasion d'orgueil, mais d'humilité. Et pour ceux qui ne voient pas de différence, d'avoir la confiance et la persévérance de te demander ton esprit. En continu, remplis-moi, Seigneur, jusqu'à ce que nous expérimentions cette joie d'être remplis, cet Esprit Saint qui déborde de nous, qui nous donne du sens, afin qu'on puisse vivre la plénitude de ta promesse. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remettons cette journée et nous te remettons déjà tout ce que toi tu veux faire dans nos vies, Seigneur, parce que tu veux faire de belles choses. Et je te bénis pour cela, Père Céleste. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Amen.